tous. Au micro, Sylvie Ligi, qui a le plaisir de vous présenter le nouveau numéro des Chroniques pour la paix, émission bimensuelle parrainée par La Paix Maintenant et G-Call. Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, Israël a attaqué l'Iran dans une opération de grande ampleur et la guerre se poursuit. La ligne de commandement iranien a été balayée. On a vu en direct la destruction des studios de la télévision. Ali Shadmani, le chef d'état-major qui remplace depuis peu son prédécesseur éliminé par Tzahal, vient lui aussi d'être tué. En retour, l'Iran n'épargne pas les habitants d'Israël avec ses missiles balistiques. Selon Benjamin Netanyahou, cette guerre ne fait que commencer. Pour parler de tout ça, nous sommes en ligne aujourd'hui avec Mahnaz Shirali, sociologue et politologue, né à Téhéran, enseignante entre autres à Sciences Po et bien entendu spécialiste de l'Iran. Bonjour Mahnaz Shirali.
Bonjour Sylvie.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est donc une opération militaire très sophistiquée que cette offensive a commencé par cette offensive a commencé. Le Mossad a réussi à monter une base de drones kamikazes. D'autres forces spéciales ont neutralisé les batteries de missiles sol-air qui assuraient la défense de la capitale iranienne. Dès le troisième jour de la guerre, l'état-major israélien affirme avoir obtenu la maîtrise du ciel dans tout l'ouest de l'Iran. Mahnaz Shirali, comment les Iraniens, le peuple iranien, a-t-il réagi à cette attaque ?
Écoutez, moi je suis à Paris, comme vous le savez très bien, et je suis en contact avec mon réseau qui est en Iran. C'est un réseau de 40 000 jeunes, mais la connexion quotidienne, c'est avec 4 000 jeunes. Donc, je ne peux pas parler au nom de 90 millions d'Iraniens, oui, mais je peux vous dire que mes contacts en Iran, ce sont les jeunes extrêmement courageux qui disent « si c'est ça le prix à payer pour se débarrasser de la République islamique, alors on accepte, mais ils attendent avec beaucoup d'impatience que le régime tombe. Leur seul souhait, c'est que le régime tombe, que ces bombardements servent à quelque chose. Et d'ailleurs, hier, quand je parlais avec eux, ils étaient terrorisés à l'idée, pas à l'idée de mourir, pas à l'idée de bombardement, pas à l'idée de la guerre, à l'idée que les Donald Trump fasse un accord avec les ayatollahs, que la guerre s'arrête là et que le régime survive. Vous voyez, l'état d'esprit des gens avec qui je suis en relation est étrangement différent par rapport à ce qu'on raconte aujourd'hui au nom des Iraniens sur les plateaux de télé, sur les plateaux de radio, et ça me chagrine parce que je vois que la parole des jeunes est très différente de la parole de ces soi-disant experts à la radio et à la télévision française.
Ah, et parce qu'à la télé, on dit quoi ? On dit que... je sais qu'il y a des gens qui se targuent d'être de gauche, qui défendent le régime actuel.
C'est ça. Et sur les plateaux de télé, on entend à tort et à travers des gens qui disent qu'il y a tant de pourcents qui pensent comme ça, tant de pourcents qui pensent comme ça. Et le fait tout simplement d'avoir été quelques jours à Téhéran ou en Iran leur donne l'autorisation de parler au nom de 90 millions d'Iraniens sans avoir mené une enquête quantitative, sans avoir interrogé les gens, mais tout simplement deux, trois personnes autour d'eux disent quelque chose. Pour eux, ça devient 90% des Iraniens qui pensent comme ça ou comme ça.
Mais parce que, en fait, si j'ai bien compris, vous me direz si je me trompe, mais une petite partie de la population soutient le régime des Mollahs par intérêt. Une autre petite partie le soutient par idéologie, qui ce sont des chiites convaincus. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est le reste de la population. Que pense-t-il ?
Exactement. En fait, de toute façon, tous les régimes dictatoriaux peuvent avoir un petit base qui les soutiennent, comme vous dites, par intérêt ou par idée. On ne sait pas comment. Mais combien sont-ils ? On ne sait pas. Mais je sais une chose. Sais une chose avec la certitude que l'écrasante majorité des Iraniens se sont appauvris sous ce régime. Et quand vous devenez pauvre, quand vous n'avez pas de quoi manger, quand vos enfants sont affamés, évidemment, vous ne soutenez pas les responsables de la situation. Oui. C'est la raison pour laquelle, quand je vous dis l'écrasante majorité des Iraniens sont contre ce régime, parce que l'écrasante majorité d'entre eux ont perdu leur pouvoir de vivre. Leur capacité de manger, ils ont perdu. Et ces gens-là, ils ne supportent plus la situation. Ils veulent le départ des ayatollahs le plus rapidement possible.
Alors, effectivement, si cette guerre vire à cela, à faire tomber le régime, ça pourrait aussi peut-être ressouder une partie de l'opinion iranienne et faire émerger un nationalisme hostile à Israël. Martin Shirali, l'indépendance nationale n'est-elle pas en jeu dans cette affaire ?
Là, moi, je ne vois pas pourquoi le nationalisme iranien doit être contre Israël, puisque ce n'est pas Israël qui a détruit l'Iran, puisque la destruction de l'Iran n'a pas commencé la semaine dernière par les bombardiers israéliens. La destruction de ce pays a commencé il y a 47 ans. Pendant 47 ans, ils ont détruit le pays. Alors, donc, aujourd'hui, le nationalisme iranien se retourne contre les responsables de cette destruction.
Ah, donc le nationalisme... voilà, enfin, si cette guerre s'arrêtait, ça ne risque pas de ressouder. Parce que si j'ai bien compris, quand même, l'indépendance nationale est quand même un sentiment très fort, un besoin certainement, et un sentiment très fort.
Absolument, absolument. Et il n'y a pas plus antinational que les ayatollahs. Mm-hmm. Vous regardez leur histoire, déjà, ils ne sont pas d'origine iranienne. Ils sont venus de Jabal al-Alem. Jabal al-Amel, c'est un endroit au Liban d'actuel. Mais à l'époque, ce n'était pas le Liban, on l'appelait Jabal al-Amel. Donc, d'origine, ces ayatollahs sont d'origine étrangère et ils n'ont jamais eu la fibre nationale. Jamais. Ils n'ont jamais eu l'amour du pays. Ce que les Iraniens sentent aujourd'hui, c'est que leur pays a été délaissé pendant 47 ans.
Alors, j'ai entendu aujourd'hui, parce qu'on se pose, tout le monde se pose des questions sur le développement, l'avenir de cette région avec toutes ses forces et ses ressources militaires, enfin, en tous les cas, en armement. Et j'ai lu tout à l'heure que Khamenei vient de mettre le pouvoir entre les mains des gardiens de la révolution.
C'est ça.
Quelle est la nature du pouvoir dont disposent les gardiens de la révolution maintenant ?
Alors, Khamenei, qui est le chef de l'armée, et qui est le chef de tout le pays, il a tellement peur de mourir qu'il s'est caché dans un trou, on ne sait pas où. Donc, il ne peut plus avoir contact avec ses généraux de l'armée. Ah. Il a confié le pouvoir à tous ses généraux qui sont en train de tomber comme les feuilles d'automne sous les tirs israéliens. Donc, ils sont en train de mourir. Le nouveau chef de plus importante base militaire iranien, Soleimani, a été tué 3 jours après avoir pris le pouvoir. Donc, et là, le pouvoir est tombé dans les mains des généraux qui sont en train de mourir les uns après les autres. Mmh. Donc, vous voyez la stabilité du régime quand même. Ça laisse espérer qu'ils vont partir bientôt. Je suis très optimiste.
Ah, ben ça, c'est formidable. Mais en fait, et les gardiens de la révolution, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? J'ai vu des messages qui circulent sur Internet, des gens affolés en disant « mais eux vont pouvoir lancer une bombe, enfin la bombe, utiliser le nucléaire » et des choses justement pas très optimistes.
Non, ils n'ont pas de bombe nucléaire à ma connaissance et ils n'ont pas prétendu l'avoir non plus. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Moi, je pense que la meilleure chose qu'ils peuvent faire, comme Reza Pahlavi leur a proposé, de se retourner contre ce régime et d'aller vers le peuple. Je pense que c'est la meilleure des choses qu'ils peuvent faire actuellement. Ils n'ont pas d'autre choix. Ils vont faire tôt ou tard, mais il faut qu'ils le fassent le plus tôt possible pour ne pas se noircir l'image devant le peuple iranien.
Ah, vous pensez que les gardiens de la révolution pourraient retourner kazakh et se mettre au service du peuple iranien ?
Je pense que s'ils étaient un tant soit un peu iraniens, s'ils avaient un tant soit un peu l'amour de leur pays et de leur peuple, ils l'auraient fait.
Bon, mais ils sont capables de le faire. Hein?
Je pense, je le souhaite.
Bien. Alors, l'Iran, en fait, durant de très nombreuses années, était une puissance incontournable du Moyen-Orient. Il avait ses proxys, le Hezbollah, le Hamas, etc. Mais tant le Hamas que le Hezbollah ont perdu de leur superbe militaire. Et on observe aujourd'hui que la République islamique est devenue militairement très vulnérable, vous venez de l'expliquer, que le régime est à bout de souffle et l'armée de l'air israélienne est chez elle dans le ciel de Téhéran. Donc c'est un maelstrom politique, pas seulement militaire. Hein. Martin Shirali, comment voyez-vous la sortie de ce maelstrom ? L'organisation politique à la fin, après la fin des combats.
Écoutez, la République islamique n'a jamais été une puissance. Je n'arrête pas de le dire depuis 2020 partout que c'est une exagération des experts français sur la République islamique. C'était jamais une puissance, ça a été toujours une nuisance. C'est très différent, c'est très différent. Et la preuve de la validité de cette analyse, c'est qu'aujourd'hui, 3 jours après la guerre, ils n'ont plus de missiles pour envoyer sur la tête des pauvres Israéliens. Tant mieux. Tant mieux. Mais pour vous dire à quel point ils sont incapables de se défendre. 47 ans, et pendant 47 ans, ils ont proféré des menaces contre un pays et ils ne savent même pas se défendre pendant 3 jours. Ça montre à quel point cette puissance était illusoire. Donc la République islamique n'a jamais été une puissance. Alors, quelle est la sortie de la situation? C'est qu'il faut qu'ils se résignent. Il faut qu'ils cèdent le pouvoir, il faut qu'ils partent. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Il n'y a pas d'autre choix. Je pense qu'aujourd'hui, qu'ils sont au pied de mur, et ils sont obligés tôt ou tard de lâcher prise et partir. D'ailleurs, nombre de témoins en Iran, sur place, à Téhéran, ont remarqué des vols le soir, alors que le ciel de Téhéran est clean et qu'aucun vol n'a le droit. Alors tous les soirs, on voit des grands avions qui quittent l'aéroport vers on ne sait pas où, Moscou, la Chine, on ne sait pas où. Et on est persuadé que ce sont les familles des dirigeants de la République islamique ou bien même le dirigeant de la République islamique qui sont en train de quitter le navire comme des rats.
À ce point-là,
oui.
Il y a une fuite, voilà, parce que généralement, dans ce genre de régime, c'est par une force extérieure que le régime cède, que le régime tombe. Est-ce que vous pensez quand même que les ayatollahs, que le régime des mollahs va se mettre à genoux et demander et partir et céder le pouvoir? Il y a quand même la question nucléaire avec Trump, avec...
Je ne sais pas pourquoi vous dites dans ce genre de régime quand il n'y a pas de règles. À ma connaissance, l'humanité n'a jamais enregistré une règle générale pour comment faire tomber un régime. Il n'y a pas une recette magique. On a des cas dans l'histoire que grâce aux interventions étrangères, un pays s'est libéré. La France est un bel exemple déjà. Pendant la Seconde Guerre mondiale, si l'armée américaine et l'armée britannique n'étaient pas venues en aide des Français, les Français parlaient aujourd'hui l'allemand et c'était pas un pays. Donc, je ne sais pas pourquoi le président français a osé dire que jamais les interventions militaires ne servent à rien, alors que c'est un Français et que si aujourd'hui, lui, il est président de la France, c'est quand même à l'intervention, c'était quand même grâce à l'intervention des deux armées américaines et britanniques. Je ne vois pas en quoi on peut penser que la République islamique doit rester et partir avec le bon souhait des Iraniens. Il se trouve que ça ne marche pas comme ça. Il se trouve que la réalité de la vie des pays, c'est autre chose que nos souhaits. Oui, moi j'aurais bien voulu que je me réveille un jour, le matin, de voir que la République islamique est partie. S'il y a une démocratie comme celle de la Suisse en Iran. Mais le problème, c'est que les souhaits, c'est une chose, la réalité sociale, c'en est autre, la réalité politique, c'en est autre. Et là, aujourd'hui, la République islamique, malgré toutes les manifestations de colère de la part du peuple, toute la résistance du peuple iranien depuis 10 ans, la République islamique a résisté, a tué les Iraniens, a massacré des femmes, a massacré des jeunes, a massacré des enfants pour assurer sa survie.
Voilà.
aujourd'hui, l'intervention militaire, il les a affaiblis. On le félicite, on applaudit des deux mains.
Voilà. Donc pour vous, cette intervention militaire israélienne va conduire à la chute de ce régime. Et si je résume bien, les gardiens de la révolution pourront, vous souhaitez qu'ils se mettent au service du peuple pour changer le régime, quoi, pour un nouvel avenir de votre pays. C'est bien ça.
Je pense que le régime est déjà mort. Et je suis très optimiste que bientôt, dans les jours à venir, les Iraniens soient libres et que le pays sera libéré.
Eh bien, sur ces propos tout à fait optimistes, je vous remercie beaucoup, Martin Sherali, pour ces explications.
Je vous en prie. Très bien. Merci, madame.